prendre ce matin pour commencer la troisième parole du Décalogue. Tu ne prendras pas le nom du Seigneur ton Dieu en vain, car le Seigneur ne tiendra pas pour innocent celui qui prendra son nom en vain. Si nous regardons au texte hébraïque, nous voyons que si nous décalquons mot à mot, on a « tu ne proféreras pas » ou « tu n'énonceras pas le nom du Seigneur ton Dieu faussement ». Le mot hébraïque traduit par « en vain » ou « faussement » signifie aussi bien la fausseté, le mensonge, que l'inutilité. On pourrait presque aussi traduire « en l'air ». Tu ne proféreras pas en l'air le nom du Seigneur ton Dieu. Classiquement, lorsqu'on regarde à ce commandement, on y voit la condamnation des blasphèmes, la condamnation des jurons, la condamnation des malédictions. Et bien souvent, on ne se rend pas compte que dans le langage courant, on appelle le nom de Dieu sans même s'en rendre compte. Je prends deux exemples en français, je ne sais pas si c'est valable pour le Québec, mais en tout cas en France, c'est comme ça, des expressions comme « touchons du bois ».« Touchons du bois ». Ça a l'air d'être une expression qui n'a aucun rapport avec Dieu, mais en réalité, à l'origine, il s'agissait de toucher le bois de la croix, ou dans les reliques, les prétendues reliques, qui contenaient le bois de la croix. Si bien que « touchons du bois », c'est une manière de proférer en vain le nom de Dieu. De même, lorsqu'on dit « bon sang », bon sang, il s'agit aussi là du sang de Jésus-Christ. Et lorsqu'on dit « bon sang de bois », je ne sais pas si on le dit au Québec, mais « bon sang de bois », c'est presque encore pire parce que c'est à la fois une allusion au sang de Jésus et à la croix de Jésus, au bois sur lequel Jésus est mort. Si bien qu'au fond, il y a des formes subtiles de blasphème, et les hommes, bien souvent, font appel à Dieu sans même s'en rendre compte. Combien de gens disent « touchons du bois » sans se rendre compte qu'ils sont en train de proférer un blasphème. Alors, bien entendu, le troisième commandement est la condamnation par Dieu qui ne tiendra pas pour innocent, la condamnation des blasphèmes, la condamnation des jurons, la condamnation des malédictions. Mais nous allons le voir, cette parole, cette troisième parole va bien plus loin que cela. Et elle touche à la question des serments, d'une part, et à la question des vœux. Nous aurons à revenir sur la question des serments dans le cours de la semaine prochaine, mais nous avons lu tout à l'heure le texte concernant le reniement de Pierre, et là nous avons vu aussi que Pierre a juré, Pierre a fait serment, il a prononcé un serment. Il a fait le serment de ne pas connaître le Galiléen, il a fait le serment de ne pas connaître ce Jésus de Nazareth. Donc, nous aurons à y revenir, tous les serments sont condamnés dès lors qu'ils ne sont pas des serments requis par une nécessité dans le genre de celle que j'ai énoncée il y a quelques jours lors d'un mariage, lors d'un procès en justice, lors d'une ordination au Saint-Ministère, etc. Mais je ne développe pas ce point du serment car nous aurons à y revenir dans le cours de la semaine prochaine. Je voudrais faire un bref commentaire d'un passage concernant les vœux et qui est en rapport direct avec ce troisième commandement. Alors vous pouvez ouvrir vos Bibles et je vais demander à l'un d'entre vous de lire dans le livre de l'Ecclésiaste. Alors là, il y a une petite difficulté. Dans les Bibles, généralement, enfin dans la Bible à la colombe que j'utilise, ça va du verset 17 du chapitre 4 au verset 6 du chapitre 5. Mais dans d'autres Bibles, surtout, je pense peut-être des Bibles anglaises, mais enfin, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié pour les Bibles françaises, ce sont les 7 premiers versets du chapitre 5. Alors, je donne une petite indication pour celui qui fera la lecture. Il faut lire à partir de « Prends garde à ton pied quand tu vas à la maison de Dieu ». Alors, Gilles, allez-y, puisque vous êtes prêt.
Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu et approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance, que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Car s'il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu.
Voilà. Alors vous voyez que ce passage de l'Ecclésiaste que je vais maintenant brièvement commenter est en rapport direct avec le troisième commandement. Tu ne proféreras pas le nom du Seigneur ton Dieu en vain, car le Seigneur ne tiendra pas pour innocent celui qui proférera son nom en vain. Alors je commente verset par verset. Excusez-moi, vous savez, je lis la version second révisée, la Bible à la colombe, mais enfin vous verrez qu'il n'y a pas de changement fondamental par rapport au texte que vous pouvez avoir sur les yeux, donc ça n'est pas grave. Prends garde à ton pied quand tu vas à la maison de Dieu. Évidemment, prends garde à ton pied, là c'est une manière imagée, hébraïque de parler. On pourrait traduire « prends garde à tes pas », ce qui serait déjà mieux, mais peut-être que la meilleure traduction, en un sens, serait « prends garde à ta démarche quand tu vas à la maison de Dieu ». Prends garde à ta démarche. C'est-à-dire que quand tu vas à la maison de Dieu, c'était au temps de l'Ecclésiaste, au temple de Jérusalem qu'il était fait allusion, ce peut être pour nous le temple ou l'église, ce peut être même toute place où l'on se recueille pour adorer, ce peut être le moment du culte de famille, ou ce peut être le moment même du culte personnel. Tout ça c'est désigné comme la maison de Dieu, disons le lieu où l'on rencontre Dieu. Eh bien, prends garde à ta démarche quand tu vas à la rencontre de Dieu. Prends garde à ta démarche quand tu vas vers la demeure de Dieu, vers la maison de Dieu. Car en effet, il y a nécessité d'une sorte de préparation intérieure. Ma démarche, c'est-à-dire le mouvement que je fais pour me rendre à la rencontre de Dieu, c'est un mouvement important. C'est un moment auquel je dois prendre garde. Approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne reconnaissent pas qu'ils font le mal. Vous savez que Jésus a dit, c'est dans Luc 8, 18, « Prenez garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il pense avoir. » Et c'est la même chose. Quand je me rends à la maison de Dieu, quand je me rends à l'église, quand je vais m'associer au culte de famille, quand je me recueille pour le culte personnel, il faut une démarche. Il faut une démarche. Une démarche préparatoire, en quelque sorte. Il faut que je sache, que j'ai conscience de ce que je fais. Je ne peux pas aller à la légère à la rencontre de Dieu. Je ne peux pas me rendre au temple à la légère. Et je me rends toujours vers Dieu avec le désir de l'écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés. Là aussi, ne voyons pas, je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, il ne faut pas voir là une critique du sacrifice en tant que tel. Mais il faut voir une critique du sacrifice des insensés. Car les insensés ne voient même pas qu'ils font le mal, ne se rendent même pas compte qu'ils font le mal, ne reconnaissent même pas qu'ils font le mal. Donc, il nous faut prendre garde à la manière dont nous allons écouter. Dans la simple démarche de prendre la Bible, je suis tout seul dans ma chambre, je prends ma Bible, je vais l'ouvrir. Eh bien, Dieu me demande de ne pas faire cela à la légère, car ce serait pécher contre le nom de Dieu, contre la révélation de Dieu. Il faut que je mette mon cœur dans une disposition pour écouter. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Oui, c'est du cœur que la bouche parle, ce cœur qu'il nous faut garder plus que toute autre chose, car c'est de lui que jaillissent les sources de la vie. Eh bien, il y a comme un temps de silence intérieur qui est indispensable. Il ne s'agit pas que j'ouvre trop vite la bouche, que j'énonce trop tôt des paroles. Il ne faut pas que mon cœur se hâte en poussant mes lèvres à parler. Il faut que je sache que Dieu est au ciel alors que moi je suis sur la terre. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Cela veut dire que nous devons toujours avoir le sens de ce que l'un des grands chrétiens philosophes du siècle dernier, le Danois Kierkegaard, exprimait en disant qu'il y a entre Dieu et nous une différence qualitative infinie. Autrement dit, c'est une façon de dire que Dieu est Dieu et que nous, nous sommes d'humbles créatures. C'est ce sens de Dieu, cette crainte de Dieu auquel encouragent tous les écrits sapientiaux de l'Écriture. Si bien que c'est important, bien sûr, Dieu est mon Père et mon Sauveur en Jésus-Christ. Bien sûr, je puis aussi et je dois aussi avoir une certaine familiarité avec Dieu. Mais même lorsque j'appelle Dieu mon Père dans une sorte de familiarité, jusqu'à lui dire « Abba, Papa », même en ayant cette familiarité, je dois me souvenir que Dieu est Dieu et que je ne suis pas Dieu. Et donc avoir dans mon cœur ce sens de Dieu, ce respect de Dieu, cette adoration de Dieu. Dieu est au ciel et toi sur la terre. Vous savez que c'est Job qui dit que Dieu est en haut, dans les cieux, Au psaume 73 aussi, il est dit que Dieu est le Très-Haut. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est le Très-Haut? Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu siège en haut dans les cieux? Cela veut dire que Dieu est Dieu. C'est une manière de dire que Dieu est Dieu. D'autant plus qu'il ne s'agit pas, bien sûr, d'une localisation dans notre ciel de Dieu, mais il s'agit d'exalter Dieu, d'adorer Dieu, d'avoir un tel respect de Dieu que l'on ne s'approche pas de lui, je dirais, sans avoir cette crainte qui est la démarche même de l'amour. N'est-ce pas, la crainte de Dieu et l'amour de Dieu vont parfaitement ensemble. Un amour de Dieu qui ne comprendrait pas la crainte de Dieu, ou une crainte de Dieu qui ne comprendrait pas l'amour de Dieu, ne serait ni la vraie crainte de Dieu, ni le vrai amour de Dieu. Et notre cœur est à la fois disposé avec amour vers Dieu, mais en même temps disposé avec crainte vers Dieu. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Vous savez que c'est aussi l'enseignement de Jésus-Christ. C'est une chose quelquefois qui peut dérouter le chrétien. Mais enfin, je pense à ce passage de Jésus dans le Sermon sur la montagne, juste avant qu'il n'enseigne à ses disciples le Notre Père. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Vous voyez, on retrouve aussi l'idée de la vanité des choses. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme font les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, qu'avec beaucoup de paroles, ils seront exaucés. Eh bien, nous avons une invitation, donc, au silence. Nous avons une invitation à ne pas prononcer trop de paroles devant Dieu. Au fond, nous sommes invités à nous recueillir devant Dieu. Et notre démarche, quand nous nous rendons à la maison de Dieu, c'est d'être une démarche de discrétion, en quelque sorte. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche, que tes paroles soient peu nombreuses. En effet, le rêve vient de la foule des soucis, et la voix de l'insensé se fait entendre par une foule de paroles. Les soucis bloquent la concentration et amènent l'impatience dans la prière, d'où les flots de paroles, la foule des paroles de l'insensé. C'est pourquoi nous devons justement nous dégager aussi de la foule des soucis, de manière à éviter la foule des paroles. Nous risquons de déverser une avalanche de paroles, comme si avec beaucoup de paroles nous serons mieux exaucés. Non, nous devons au contraire, dans une certaine réserve, procéder de la façon inverse. Et nous avons un exemple de cette façon inverse dans un récit qui nous est donné au chapitre 4 du livre des Actes, les versets 24 à 31, si quelqu'un veut lire ce passage, Actes 4, 24 à 31. C'est Pierre et Jean viennent d'être relâchés par le Sanhédrin, et voilà qu'ils rejoignent les autres disciples. Et commence le verset 20.
Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avant. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance.
Alors, je vous disais, ça c'est l'indication du bon mouvement quand on va vers la maison de Dieu. Tout d'abord, l'adoration. Ils arrivent, et les Pierre et Jean arrivent, et les disciples qui sont là, après avoir entendu le récit de Pierre et Jean, de leur comparution devant le Sanhédrin, d'un commun accord, ils élevèrent la voix vers Dieu et dirent, « Maître qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. » Et donc, il y a d'abord un mouvement d'adoration. Ensuite, dans la suite des versets 25 à 28, il y a la méditation d'un texte de l'Écriture. Le moment est tragique, l'Église naissante est persécutée. Eh bien, on lit dans la Sainte Écriture tout un passage d'un psaume, et avec attention, on écoute cette parole. On comprend très bien pourquoi ils ont fait cette lecture. L'Église est persécutée. Paul et Pierre et Jean viennent de comparaître devant le Sanhédrin, viennent de se faire interdire de continuer à proclamer la parole de Dieu. Alors, ils lisent ce passage d'un psaume. Il s'agit du psaume 2. Pourquoi les nations se sont-elles agitées et les peuples ont-ils de vaines pensées? Les rois de la terre se sont dressés et les chefs se sont ligués contre le Seigneur et contre son Christ, contre son nom, contre son Christ. Puisque vous savez que Christ, c'est la forme grecque du mot oint. On a trois mots en français. On a le Christ, c'est la forme grecque. On a le Messie, c'est la forme hébraïque. Et on a l'oint, c'est la forme latine. Mais c'est le même mot, le Christ, le Messie, loin, c'est le même mot. Alors donc, ils lisent le psaume, ils ont référence à ce psaume. Donc, premier mouvement, l'adoration. Deuxième mouvement, l'obéissance à l'Écriture. Et ensuite, ils font une requête. Oh, ils ne multiplient pas les paroles, ils demandent à Dieu une chose. Ils viennent d'écouter la parole de Dieu qui dit que les nations, les peuples, les rois de la terre se liguent contre le Christ. Eh bien, sur la base de cette parole de Dieu, ils demandent maintenant, Seigneur, ton serviteur, et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole en toute assurance, étends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des signes et des prodiges par le nom de ton serviteur Jésus. Au fond, ce qu'il demande à Dieu, bon ben, puisque tu as dit que toi, tu étais le roi opposé à toute la puissance des chefs des nations et aux nations, puisque nous sommes, nous, persécutés par les nations et par leurs chefs, eh bien, nous te demandons de nous donner, d'annoncer ta parole avec assurance, bien que cela vienne de nous être interdit, que nous puissions continuer à propager ta parole, c'est selon l'ordre que Jésus leur avait donné, d'aller et de proclamer sa parole à toutes les nations. Et après cela, vous avez l'exaucement, on pourrait dire, à la fois dramatique et immédiat, dramatique en ce sens qu'il y a comme un tremblement de terre qui se produit à ce moment-là, le lieu où ils sont assemblés tremble, et ils sont remplis de la puissance du Saint-Esprit, ils sont remplis du Saint-Esprit, et ils vont annoncer la parole de Dieu avec assurance. Et bien là, nous avons le modèle, en quelque sorte, le modèle d'une vraie prière chrétienne, faite d'adoration, d'écoute de la parole de Dieu, d'une requête précise et finalement d'un exaucement. Donc, on peut dire que l'accomplissement de l'enseignement d'Ecclésiaste 4, 17 à 5, 6 se trouve dans ce texte du livre des Actes. Je continue la lecture. « Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'y a point de faveur pour les insensés, accomplis le vœu que tu as fait. » Alors ici, vous pourrez vous référer au mot « vœu » dans une concordance, parce que je ne veux pas vous charger d'une accumulation de, d'indications de versets. Vous aurez qu'à chercher au mot « vœu » et vous pourrez donc vérifier ce que je vais dire maintenant. C'est que dans la parole de Dieu, le chrétien est appelé à prononcer des vœux. Il doit énoncer un vœu, bien sûr, dans la crainte et le tremblement, et aussi dans l'humilité, mais le chrétien est appelé à prononcer un vœu. Qu'est-ce que c'est qu'un vœu ? C'est une promesse conforme, bien sûr, à la norme de la Sainte Écriture, à l'autorité de la Sainte Écriture. Il y a des choses qui nous sont interdites. Nous ne pouvons pas, par exemple, prononcer des vœux qui seraient tenter Dieu. Nous ne pouvons pas énoncer un vœu. Je dirais, Pierre, précisément, c'était un serment qu'il a énoncé, mais c'était aussi un vœu. Il a fait le vœu de ne pas renier le Christ. Et là, je dirais, il s'est embarqué dans une aventure. Nous ne pouvons pas énoncer des vœux de ce genre. Nous n'avons pas le droit, par exemple, d'énoncer le vœu et de dire « si jamais il y a une persécution, eh bien moi, je tiendrai bon ». Au fond, c'est un peu le vœu de Pierre. Ça, nous ne pouvons pas, parce que ça, c'est tenter Dieu. Nous ne devons pas tenter Dieu. C'est-à-dire faire un vœu qui va au-delà nos capacités du moment. Dieu ne permet pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces, mais je dirais, d'un autre côté, nous ne devons pas non plus tenter Dieu au-delà des possibilités qu'il nous a données. Et il faut que ce soit aussi en conformité avec l'Écriture. Je fais allusion ici, par exemple, au vœu de Jephté. Vous vous souvenez, c'est le récit du livre qui nous est fait dans le livre des Juges. Et là, c'était un vœu insensé. Il avait promis de sacrifier à Dieu la première personne qui viendrait à sa rencontre. Et puis vous vous souvenez, il se trouve que c'est sa fille qui est venue à sa rencontre. Et du coup, croyant être lié par ce vœu insensé, il a mis à mort sa propre fille. Il a voulu accomplir un vœu qui était un vœu infidèle. Donc, il faut faire attention. Notre vœu doit être un vœu modeste, j'allais dire un vœu à la portée des forces que Dieu nous a données pour le moment. Et c'est pourquoi, bien souvent, je vous donne ça, là aussi je fais un peu de théologie pratique, c'est très important quand on a affaire, par exemple, à un buveur. Eh bien, il ne s'agit surtout pas de dire à un buveur de faire le vœu « je ne boirai plus, maintenant je ne boirai plus ». Parce que ça, c'est le genre de vœu insensé. C'est un vœu qui outrepasse ce qu'on peut faire. Mais on peut très bien, si l'on connaît bien sûr déjà un peu ce buveur, lui faire prononcer un vœu ou l'aider à prononcer un vœu tout à fait à sa portée. Pendant 24 heures, je ne boirai pas d'alcool. Pendant 24 heures. C'est un vœu modeste. C'est un vœu selon les capacités que Dieu nous a données. Et puis alors, au bout de 24 heures, lui faire reprendre un autre vœu de 24 heures. Et puis s'il est fidèle à ses deux premiers vœux, ensuite on peut passer à un vœu d'une semaine. Et puis ensuite on peut passer, au bout de quelques semaines, à un vœu d'un mois. Et puis ensuite, peut-être à un vœu d'un an. Autrement dit, il faut, d'une part, que notre vœu soit un vœu humble, j'allais dire un vœu qui ne tente pas Dieu, qui n'outrepasse pas les capacités que Dieu nous donne, et d'autre part, il faut que ce soit un vœu conforme à la loi de Dieu. Jephté, par exemple, n'a pas fait conforme à un vœu conforme à la voix de Dieu, parce qu'on n'a absolument pas le droit de sacrifier une personne humaine. Un sacrifice humain est interdit dans l'Écriture. Oh, bien sûr, en Canaan, il y avait des sacrifices humains, en particulier des sacrifices d'enfants, mais selon la parole de Dieu, on ne peut pas faire un vœu qui soit en contradiction avec la loi de Dieu. Jephté a fait un vœu en contradiction avec la loi de Dieu. Tandis que un alcoolique qui fait vœu de ne pas boire d'alcool parce que pour lui, c'est un péché, c'est son vice, c'est ce qui le rend esclave. Dieu veut libérer ceux qui sont esclaves d'un vice. Eh bien, voilà, il faut qu'il avance. Là, je vous ai dit, il faut jamais être l'esclave d'un vice. Et ça me rappelle une petite histoire, je vous dis ça pour vous distraire une seconde, que j'ai racontée à Gilles l'autre jour. J'ai eu pendant 14 ans dans ma paroisse un compagnon pasteur. Nous avons été deux ensemble dans cette paroisse pendant 14 ans. Et mon collègue, Pierre Gagné, ne fumait jamais. Jamais, il ne fumait pas. D'ailleurs, il était contre l'usage du tabac et tout ça. Et alors, et de temps en temps, je crois que j'ai vu ça trois fois en 14 ans, mais enfin, quelquefois il faisait ça là, il fumait une cigarette. Et un jour, je lui ai demandé, mais enfin, pourquoi je t'ai vu fumer alors que tu fumes jamais? Et surtout qu'il n'aime pas spécialement fumer, non, mais il fume. Alors, il m'avait répondu par cette phrase, je fume de temps en temps, très très rarement, pour me montrer que je ne suis pas esclave de ne pas fumer. Et si vous voulez, en un sens, je vous dis ça pour vous amuser, mais en un sens quand même, ça peut se comprendre aussi, parce que non plus, je veux dire, il n'y a pas une interdiction de la parole de Dieu de fumer une cigarette de temps en temps. On ne peut pas établir une sorte de loi de Dieu ajoutée à la loi de Dieu. Vous savez, les hommes aiment bien ajouter des lois à la loi de Dieu. Il n'y a pas une loi de Dieu disant « tu ne boiras pas d'alcool ». Il n'est pas une loi de Dieu disant « tu ne fumeras pas ». Non. Seulement, lorsque la fumée devient pour nous un esclavage, lorsque la fumée aussi risque de contredire notre bon témoignage dans une communauté, eh bien, nous devons nous abstenir de fumer totalement. De même, je dirais, pour aider un frère qui est soumis à l'alcoolisme, eh bien, nous pouvons peut-être prendre l'engagement de la Croix Bleue. Je pense que vous avez aussi la Croix Bleue au Canada. Non, c'est une association chrétienne qui lutte justement contre le vice de l'alcoolisme. Eh bien, on peut prendre l'engagement, même si soi-même, on peut de temps en temps boire un verre de vin. On peut signer un engagement avec un alcoolique pour l'aider, de manière à être avec lui dans son combat, dire, eh bien, moi, je suis avec toi, nous allons tous les deux ensemble faire le vœu de, etc. Alors, c'est important, voyez-vous, c'est très important de tenir ces deux points ensemble pour les vœux. Que notre vœu soit humble et que notre vœu soit conforme à la loi de Dieu. Et qu'au fond, ce sont des vœux qui contribuent, qui peuvent contribuer à notre sanctification. Et il faut que nous soyons à ce moment-là fidèles à ceux. Bien sûr, Dieu peut nous amener, dans certains cas, à énoncer un vœu plus important, un vœu plus considérable. Il n'y a pas de doute que certaines formes de serments sont des vœux. Par exemple, lorsque le pasteur est ordonné dans nos églises réformées en France, eh bien, il fait la promesse de garder par-devers lui les confessions qui lui seront faites en décharge de conscience, mais aussi, je dirais, il énonce un certain nombre de vœux. Il fait, si je veux, des vœux, ce sont des promesses. Donc, si vous voulez, vœux et serments, ça se rapproche quand même pas mal. Il y a une différence parce que le serment, c'est plutôt quelque chose de public devant une autorité, tandis que le vœu peut être quelque chose de tout à fait privé et d'absolument un secret entre Dieu et moi. Je peux faire un vœu que personne ne sait que j'ai fait ce vœu, il n'y a que Dieu qui le sait. C'est dans le rapport direct entre Dieu et moi. Voilà. C'est difficile, quelquefois, de distinguer entre vœux et serments. C'est très proche. Mais, si vous voulez, il n'y a pas de doute que nous devons éviter de tomber sous la condamnation. Car nous n'avons pas le droit de faire pécher notre être. Voilà, je continue. Maintenant, à propos de vœux, je vous donne quand même deux petites indications, deux références bibliques, j'en donne pas beaucoup, parce que je ne veux pas vous accabler sous les citations. Proverbe 20, 25, je lis, « C'est un piège pour l'homme de dire à la légère « c'est sacré » et de ne réfléchir qu'après avoir fait des vœux. » Réfléchir après avoir fait des vœux. On doit réfléchir avant, pour voir si le vœu est humble, si ce n'est pas une tentation, une manière de tenter Dieu, et puis si c'est un vœu conforme à la loi de Dieu, c'est-à-dire un vœu irréprochable sur le plan éthique, sur le plan moral. Et puis l'autre texte, c'est dans Deutéronome 23, les versets 22 à 24. Deutéronome 23, versets 22 à 24. « Si tu fais un vœu au Seigneur ton Dieu, tu ne tarderas pas à l'accomplir, car le Seigneur ton Dieu t'en demanderait compte, et tu te chargerais d'un péché. En t'abstenant de faire un vœu, tu ne commets pas de péché, mais tu observeras et tu exécuteras ce qui sera sorti de tes lèvres, conformément au vœu que tu feras volontairement au Seigneur ton Dieu, et que ta bouche aura prononcé. » Donc vous voyez, il y a un enseignement biblique concernant les vœux, et les vœux peuvent nous aider, contribuer à notre sanctification, mais je le répète, à condition de tenir ces deux points, l'humilité dans le vœu et la fidélité par rapport à la Sainte Écriture dans le vœu. Mieux vaut pour toi, notre texte continue, ne pas faire de vœu que d'en faire un sans l'accomplir. Le vœu étant volontaire, n'est-ce pas? Dieu ne nous demande pas de faire des vœux, il n'y a pas un commandement de faire des vœux, nous ne sommes pas obligés de faire des vœux, simplement le vœu est conseillé dans l'Écriture sans être ordonné positivement, et le vœu doit être un engagement volontaire. Alors il faut peser ces mots, réfléchir, avant d'énoncer un vœu, se souvenir que Dieu est au ciel, que nous, nous sommes sur la terre, ne pas tenter Dieu, être suffisamment humble pour ne pas viser trop haut dans un vœu, et ne faire un vœu que, je dirais, dans la... Mais bien sûr, il y a des vœux qui vont très loin. Lorsque Dieu nous appelle au saint ministère, si nous avons reçu de Dieu une vocation, c'est pas tenter Dieu que d'énoncer des vœux qui vont dans le sens de la fidélité de notre ministère. Le vœu, par exemple, de demeurer pasteur jusqu'à la mort, le vœu de demeurer fidèle aux engagements que nous avons pris en étant ordonné. Alors là, le vœu peut paraître très énorme pour des gens qui n'ont pas la vocation au Saint-Ministère, mais pour quelqu'un qui est appelé au Saint-Ministère, que Dieu appelle au Saint-Ministère, c'est tout à fait normal, ce n'est pas tenter Dieu que de faire des vœux qui sont en conformité. Par exemple, si je fais le vœu de prêcher fidèlement la parole de Dieu, eh bien c'est un vœu que j'ai non seulement le droit, mais peut-être même le devoir de faire, et que j'ai fait en tout cas au moment de mon ordination. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher tout ton corps, ta chair, et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu devrait-il s'irriter de tes paroles et ruiner l'œuvre de tes mains? Notre Dieu ne prend pas à la légère nos vœux. Et ne pas accomplir un vœu n'est pas inadvertance, mais péché. Dieu ne tient pas pour innocent celui qui aura proféré son nom en vain. L'envoyé, là, c'est un peu mystérieux. Il y a deux interprétations possibles. Ou bien c'est en présence, le vœu serait en présence de l'ange du Seigneur, parce que vous savez qu'en hébreu, comme d'ailleurs en grec, souvent ange et envoyé, c'est la même chose. Et l'ange du Seigneur, dans l'Ancien Testament, bien souvent, c'est le Messie. Donc on pourrait que dire que c'est en présence du Christ qu'il s'agit d'envoyer. Mais je ne crois pas que ce soit la meilleure interprétation. C'est possible. Je ne dis pas que ça n'est pas. Mais je dis, il semble plutôt qu'il s'agit soit d'un prêtre dans l'ancienne disposition, parce qu'on se rendait quelquefois au temple pour faire un vœu, et on énonçait ce vœu en présence d'un prêtre. Et dans la nouvelle dispensation, puisqu'il n'y a plus de prêtre dans la nouvelle dispensation, eh bien, c'est avec un ancien. Un ancien qui peut être un pasteur, mais qui n'est pas forcément un pasteur, qui peut être un des membres du conseil de l'Église. Pourquoi? Parce que quelquefois, on peut être aidé en énonçant le vœu en présence de ce prêtre dans l'ancienne dispensation, ou en présence de cet ancien dans la nouvelle. Hein? Et il ne faut pas ensuite dire, si l'on pêche, « Oh non, mais j'ai dit ça, mais je ne pensais pas. » D'ailleurs, à ce moment-là, le prêtre ou l'ancien en question sont en quelque sorte témoins du vœu. Et c'est pas mauvais dans certains cas d'énoncer en présence. On est aidé. Par exemple, si un alcoolique, je vous donne cet exemple pour reprendre toujours le même, si un alcoolique va faire un vœu et qu'il le fait seul à seul avec Dieu, lui, ça peut être une aide pour lui que de faire le même vœu en présence d'un ancien. Et peut-être accompagné de la prière du pasteur, parce que le pasteur est un des anciens. Alors le pasteur est là, l'alcoolique en question énonce son vœu, et il y a un témoin, mais ce n'est pas un témoin pour le juger, c'est un témoin pour l'aider. C'est une manière où on est aidé, parce qu'on sait qu'on ne l'a pas dit seul à seul avec Dieu, mais quand même, on a fait son vœu, il y a quelqu'un qui en a été témoin et qui peut aider. On se dit, tiens, on peut même donner rendez-vous, si par exemple c'est un vœu de 24 heures d'un alcoolique, ben, il m'arrivait de donner rendez-vous à l'alcoolique en question. Lui dit, bon, eh bien il est 8 heures, eh bien demain à 8 heures, tu viens me trouver. Et puis alors là, le lendemain à 8 heures, on peut recommencer à avoir encore un vœu de 24 heures. Donc l'envoyé, qui est là, l'ancien, le pasteur, est là, il aide. L'alcoolique sait, ah oui, ce soir, demain, j'ai rendez-vous, ou ce soir, j'ai rendez-vous avec mon pasteur, là, devant qui j'ai prononcé mon vœu à l'Éternel, mon vœu à Dieu, mon vœu au Seigneur. Eh bien, voilà. Car de la foule des rêves, il y a... Car dans la foule des rêves, il y a des vanités, de même quand il y a beaucoup de paroles, c'est pourquoi craint Dieu. Vous voyez, c'est intéressant parce qu'au fond, au début de ce passage, il est question de la crainte de Dieu. Dieu est au ciel et toi sur la terre. Et à la fin, il est dit encore craint Dieu. D'ailleurs, vous savez que craint Dieu est quand même une des paroles fondamentales de l'Ecclésiaste. À la fin du livre de l'Ecclésiaste, tout à la fin du dernier chapitre de l'Ecclésiaste, il est encore dit craint Dieu. Et je vais maintenant conclure un troisième niveau. Donc vous voyez, premier niveau, les jurons, les blasphèmes. Hein. Souvent, on a cru que ce commandement, et on a dit que ce commandement visait ça. Prendre le nom de Dieu en vain, c'était jurer. Prendre le nom de Dieu en vain, c'était blasphémer. Bon, ça c'est ce que j'appelle le premier niveau. Un niveau un peu plus profond, c'est le niveau des serments et des vœux. C'est celui que nous venons de voir. Mais il y a un niveau encore plus profond et qui touche, vous allez le voir, aussi bien notre rapport avec Dieu que notre rapport avec le prochain et notre rapport avec nous-mêmes. Alors voilà le niveau le plus profond. Il s'agit de ne pas proférer en vain ou faussement le nom du Seigneur. Nous avons vu hier que le nom, Shem en hébreu, que le nom, et quelquefois on dit simplement le nom. Il y a des textes de l'Écriture où il est simplement question du nom. Ça peut nous sembler bizarre. Par exemple, dans Lévitique, au chapitre 24, versets 10 à 16, vous verrez, c'est le cas d'un Israélite qui est fils d'un Israélite, d'un homme qui est fils d'un Israélite et d'une Israélite et d'un Égyptien, hein, et qui commet un blasphème, et il est simplement dit, il blasphème le nom.